France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Durant des siècles, le passage du Nord-Ouest, permettant de rejoindre l'Asie depuis l'Europe par la voie la plus directe, aura été le Graal dont la quête aura occupé les plus illustres marins, les plus intrépides découvreurs, avant qu'en 1905, parti d'Oslo, Roald Amundsen ne réussisse à franchir le premier, ce passage entre l'Atlantique et le Pacifique. Ce ne fut que bien des années plus tard, en 1977, qu'un marin néerlandais, Willy de Ros, réussit à refaire à l'identique le parcours d'Amundsen, mais lui, au contraire de son célèbre prédécesseur, en une seule saison et en solitaire. En 1981, pour une nuit magnétique, qui plus que jamais portait bien son nom, Michel Cohen avait convié Willy de Ros à venir raconter aux auditeurs de France Culture ce qu'avait été son exploit et à retracer pour eux l'histoire de la mythique recherche du passage du Nord-Ouest. Une émission à laquelle était également convié Michel Serres, marin lui-même, dont le cinquième volume de son Hermès, publié l'année précédente, avait justement pour titre « Le passage du Nord-Ouest ». Nuit magnétique, Le passage du Nord-Ouest, une émission diffusée la première fois le 17 avril 1981 sur France Culture.
Le passage du Nord-Ouest fait communiquer l'océan Atlantique et le Pacifique par les parages froids du Grand Nord canadien. Il s'ouvre, se ferme, se tord à travers l'immense archipel arctique fractal, le long d'un dédale follement compliqué de golfes et chenaux, de bassins et d'étroits, entre le territoire de Baffin et la terre de Banks. Distribution aléatoire et contraintes régulières fortes, le désordre et les lois. Vous l'embouquez au détroit de Davis, il finit en mer de Beaufort. De là, courez le nord de l'Alaska vers les Aléoutiennes. Délivrance, vous donnez sur le nom de la paix. Parti de Falmouth en Angleterre à bord d'un ketch de 13 mètres en acier, le Willy Wow, le 21 mai 1977, Willy de Ros franchit le cercle arctique le 16 juin, longe la côte ouest du Groenland, se faufile de chenal en chenal à travers le dédale des îles du Nord canadien et passe le 18 septembre le détroit de Bering. Il réalisait ainsi un exploit jamais renouvelé depuis Amundsen, joindre l'Atlantique au Pacifique par le passage du Nord-Ouest. Alors, Willy de Rouze est avec nous ce soir en direct du studio des Nuits Magnétiques. On a assez peu parlé en France de l'exploit extraordinaire que vous avez accompli, Willy de Rouze. Je tiens à dire que c'est un exploit tout à fait extraordinaire, d'autant plus extraordinaire sans doute que vous l'avez fait seul, en navigateur solitaire, comme on dit.
Oui, en réalité, je ne l'ai pas fait tout à fait seul. J'ai eu pendant 6 semaines quelqu'un à bord, un équipier à bord, un équipier belge, Jean-Louis de Gerlache. Et donc, pendant 6 semaines, j'ai eu, pour le moins, 2 yeux de plus. Et c'était très important.
Et quelques heures de sommeil supplémentaires, ça.
Et oui, bien sûr, et car c'est cela qui fait toute la différence. Lorsque vous avez quelqu'un qui est près de vous, qui peut veiller pendant que vous vous reposez, c'est une énorme aide. C'est une très grande différence, bien sûr.
Alors, il faut dire que ce passage du Nord-Ouest a fait rêver longtemps, que beaucoup de marins l'ont tenté, s'y sont hasardés avant vous. Un seul a réussi au début de ce siècle, il s'appelait Roald Amundsen. Il a réussi le passage du Nord-Ouest dans le bon sens, etc. Par rapport à vous, Amundsen avait évidemment, n'a pas pu bénéficier de tous les progrès techniques, de tous les instruments, les radars, etc., que vous avez pu utiliser. Mais je crois que, par contre, Amundsen était soutenu financièrement, alors que vous ne l'avez pas été.
C'est vrai. Mais si vous permettez, nous allons d'abord mettre les choses exactement dans leur contexte. Il est vrai qu'après Amundsen, donc après l'arrivée d'Amundsen en 1906 dans le détroit de Bering, personne n'avait réussi le passage dans le même itinéraire. Mais quelques navires, quelques brise-glaces et le Manhattan, un pétrolier, avait réussi le passage, mais dans un autre itinéraire. Donc j'ai été le premier après Amundsen dans cet itinéraire de la découverte, puisqu'Amundsen avait découvert en réalité le passage du Nord-Ouest. Et il est vrai également que le passage avait été recherché depuis longtemps, puisqu'à la fin du 15e siècle, l'Angleterre a commencé à envoyer des expéditions dans le nord pour trouver une route vers les Indes qui ne soit pas contrôlée par les Espagnols et les Portugais qui tenaient l'Amérique du Sud.
La route des épices.
La route des épices, précisément. Mmh. Et durant cette longue recherche, et qui a été émaillée par des noms, je dirais, prestigieux, car je cite de mémoire Frobisher, Hudson, Davis, Collingwood, Belcher et tant d'autres, n'est-ce pas, ont essayé ce passage. Et en effet, Amundsen est arrivé le premier. Mais il est difficile de comparer des expéditions effectuées à des dates ou à des époques différentes, n'est-ce pas? Car chaque expédition a apporté quelque chose au savoir universel et Amundsen bénéficiait déjà de l'expérience accumulée des expéditions précédentes et spécialement de McClure qui, lui, avait réussi le passage du Nord-Ouest, mais une partie en traîneau. Donc, au moment où Amundsen est parti, on savait qu'il y avait un passage. Et lorsque je l'ai réussi après Amundsen, bien sûr, j'ai moi aussi bénéficié de l'expérience d'Amundsen. Et, par exemple, Amundsen s'était échoué dans le détroit de Ross, près des îles Marty. Et sachant ça, j'ai été très prudent en passant à cet endroit-là.
Vous avez utilisé l'expérience.
C'est ça. Donc, ça veut dire que chacun, tout le monde a apporté quelque chose. Et j'espère que j'ai pu apporter quelque chose à la communauté. Car, en réalité, mon voyage est alors le premier voyage d'un petit navire avec un équipement, disons, moderne.
Mais alors, nous allons parler de ce voyage, mais je dois vous présenter Michel Serres.
Oui.
Alors, je veux dire d'abord que Willy de Rouze a fait le récit de son voyage dans un livre publié en 1979 aux éditions Artaud, et que ce livre, comme il se doit, a pour titre « Le passage du Nord-Ouest ». Et il est sous-titré « Du Groenland au détroit de Bering ». Alors maintenant, voilà, je présente Michel Serres, qui est l'autre invité de ce soir. Michel Serres est un philosophe. Son œuvre est importante. On sait que Michel Serres a écrit sur Bergson, sur Lucrèce. Dans le dernier livre, vous parlez de Bergson. Mais sur Lucrèce, sur Auguste Comte, sur Leibniz, sur Carpaccio, sur Jules Verne, etc. Il se trouve, Michel Serres, que vous avez également plié une série de livres aux éditions de Minuit qui tous ont pour titre Hermès, avec un numéro. Alors Hermès 1, c'était la communication, 2, l'interférence, 3, la traduction, 4, la distribution. Et enfin, en 1980, Hermès 5 est sorti et il a pour titre Le passage du Nord-Ouest. Alors, c'est alerté.
Je suis le second seulement, puisque Willy de Rose, ici présent, avait publié son livre qui est intitulé de la même façon Avant moi.
Avant
je crois qu'il est avant moi. Il est avant moi de toute façon, puisqu'il y est allé et que je n'y suis
pas allé.
Et je voudrais d'abord dire aussi, puisque je suis là, que j'ai lu son livre, que j'ai beaucoup d'admiration pour son livre et que j'ai surtout beaucoup d'admiration pour l'exploit qui a été fait. Et que non seulement je suis le second dans le temps pour avoir donner le titre à ce livre, mais qu'aussi je voudrais dans cette émission n'avoir que la seconde place. Le premier ici, c'est Willy de Rose.
Voilà. Alors, il faut dire quand même peut-être que, Michel Serres, vous êtes philosophe certes, mais que vous avez été marin.
Oui,
vous avez commencé.
J'ose à peine le dire devant Willy, parce que moi j'ai été marin quelques années seulement, et je n'ai été, si vous voulez, que dans des...
Ça a été officier de marine.
Que dans des parages repérés, je n'ai pas été dans des parages si extraordinaires que ce qu'a reconnu Willy de Rose. Une question, Willy de Rose. Amundsen ne l'avait pas fait en une seule saison.
Non, Amundsen avait mis trois ans.
Trois ans. Tandis que vous l'avez fait en une seule saison.
Je l'ai fait
ça
en
fait
une
différence
saison.
Énorme.
Oui,
je trouve tout de même, parce que Amundsen hiverne deux fois. Tandis que vous n'avez pas. Trois fois. Tandis que vous n'avez pas hiverné du tout.
Non, bien sûr. Bien sûr, il faut dire que Amundsen, c'était en juin. Un programme scientifique, et qu'il avait étudié le magnétisme
c'est
polaire,
ça.
Alors que le pôle Nord se trouvait très près du lieu où il a hiverné,
c'est
le Joe Haven, où il a hiverné les hivers de 1903, 1904 et 1904-1905, et il est resté là pour faire ses études sur le magnétisme. Donc, on ne peut pas réellement prétendre que je l'aurais fait trois fois plus vite qu'Amundsen, c'est pas vrai. Amundsen est resté spécialement là pour une raison scientifique.
Oui, c'est ça.
Mais si vous le permettez, je voudrais dire à Michel Serres combien j'ai apprécié ce qu'il écrit du passage du Nord-Ouest. Et je dois vous dire, je vous le dis en toute humilité, un jour, regardant les rayons de livres dans une librairie, j'ai vu un titre, Le passage du Nord-Ouest. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? J'ai sorti le livre et évidemment, je l'ai acheté. Et je pensais acheter un livre de navigation, c'était un livre sur la philosophie, c'était autre chose. Mais vous tirez dans votre livre le parallèle entre le passage... je veux d'ailleurs vous le faire dire, vous, mais je crois le passage entre les sciences exactes et les sciences humaines que vous comparez au passage du Nord-Ouest. Et alors j'ai été saisi de la description que vous donnez du passage du Nord-Ouest, car c'est très réaliste, c'est très vrai.
Merci.
Et puis vous décrivez la genèse d'une dépression et...
C'est bien comme ça que
les choses se passent, ce qui fait que vous êtes parti, pour moi, qui était plus intéressé, ou mieux à même de juger de cette technique de navigation, vous êtes parti, pour moi, d'une base de comparaison très solide. Et c'est ce qui m'a amené à continuer à lire le livre. J'ai eu énormément de difficultés parce que n'étant pas du tout versé dans cette approche, disons, de la vie. Mais je l'ai fait parce que j'ai trouvé tellement attachant cette description du passage du Nord-Ouest. C'est formidable. Oui, c'est formidable quand on dit des choses qui sont vraies.
D'accord.
Alors, je voudrais dire que j'ai trouvé un autre livre qui s'appelle aussi « Le passage du Nord-Ouest ». C'est un livre publié à New York en 1936, et c'est un livre d'aventure avec des Indiens, etc. C'est un énorme livre de 700 pages. Et ce que j'ai compris au travers de ce livre, c'est que si on a cherché tellement le passage du Nord-Ouest, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était pour des raisons essentiellement économiques, ou alors, comme Amundsen, scientifiques. Mais vous, Willy de Rose, qu'est-ce qui vous a poussé? Je ne pense pas que ce soit pour des raisons économiques, ni pour aller étudier le magnétisme terrestre que vous êtes allé au passage du Nord-Ouest. Pourquoi est-ce que vous avez entrepris cette expédition?
Je crois que vous posez là une question qui est complexe. Je me la suis posée souvent en cours de route, je ne me réponds jamais de la même façon, ce qui veut dire que c'est vraiment complexe. Mais disons que pour moi, le passage du Nord-Ouest était une évolution. Je n'ai pas commencé, disons, ma navigation par le passage du Nord-Ouest. Vous savez que j'avais réalisé un tour du monde entre les années 72 et 75. Et je crois que c'est une démarche très humaine de vouloir chaque fois aller un peu plus loin. Et c'est ainsi que c'était une progression normale de choisir ce passage du Nord-Ouest. J'y avais pensé depuis longtemps. Mais la première fois, lorsque j'ai quitté donc, pour le tour du monde, je n'étais pas prête à entreprendre ce voyage. Et finalement, j'en ai commencé l'étude toujours avec un grand point d'interrogation. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce ne sera pas possible? Et alors, je me suis aperçu qu'au début, il y avait tant de difficultés à vaincre que je me disais, ça ne sera jamais possible. Mais en prenant une à une les difficultés, finalement, un jour, je suis arrivé au bout, je me suis dit, tiens, j'ai résolu tout, donc partons. Et c'est ainsi que je suis parti.
Mais est-ce que vous avez été attiré par le risque, le danger que ça représentait
Non. Ce n'est pas le risque pour le risque qui m'attire. Mais disons que dans ma démarche, j'essaye d'aller au fond de mes possibilités. Et je me compare à un athlète, par exemple, qui essaye de sortir tout de sa musculature. Eh bien, personnellement, je crois plus en la condition morale et j'essaye de sortir ce que je peux de ma condition morale. Je me place dans une situation difficile que j'essaye de gérer tout en sachant mes limitations. Et c'est tout la lutte intérieure entre ce qu'on aimerait être et que ce qu'on est capable d'être.
C'est vrai que dans le livre de Willy de Rose, il y a quelquefois deux Willy de Rose. On a l'impression qu'il y a une sorte de dialogue entre celui qui gère et celui qui est géré. C'est ça?
Absolument.
Oui, c'est ça.
Absolument. Et c'est ainsi que je vis ma solitude. Ma solitude...
C'est une solitude à deux.
Se vit par un dialogue intérieur.
Mais du reste, vous parlez tout le temps à vous-même?
Oui, bien sûr. Je sais bien que les gens n'aiment pas d'avouer qu'ils se parlent, mais je l'avoue humblement. Oui, je me parle. Et je trouve que c'est un magnifique moyen pour atteindre la sérénité intérieure. Si les deux composantes de la personnalité arrivent à s'entendre, et ça n'est pas toujours facile, vous atteignez la sérénité. Et c'est très important.
Alors, Michel Serres, tout de même, le passage du Nord-Ouest pour un livre de philosophie, est-ce que vous pouvez dire plus précisément?
Je voudrais d'abord dire que je me suis trompé. Il faut quelquefois avouer qu'on s'est trompé. Dans le texte que vous avez lu au début,
qui est un texte de moi,
je dis que le passage du Nord-Ouest s'achève ou se termine en mer de Beaufort. Et ça, c'est mon erreur. Et lorsque j'ai lu le livre de Willy de Rose, je me suis aperçu qu'il faut compter pour passage du Nord-Ouest toute la traversée de cette mer glaciaire qui est hautement difficile le long de l'Alaska, et que le passage du Nord-Ouest s'achève ou se termine au détroit de Bering. Et je promets, je vous promets, Willy, qu'à la prochaine édition de mon livre, je ne dirai pas « il s'achève en mer de Beaufort », je dirai qu'il s'achève au détroit de Bering, puisque j'ai compris, grâce à vous, à quel point était difficile cette navigation le long des côtes de l'Alaska. Alors, vous me demandez pourquoi moi j'ai eu l'idée du passage du Nord-Ouest.
En dehors du fait que vous êtes un marin, mais je ne crois pas que vous souhaitiez aller au passage du Nord-Ouest.
C'est vrai que c'est quelque chose dont toute une partie... Beaucoup d'écrivains ont rêvé cet endroit-là, puisque nous disions tout à l'heure avec Willy avant l'émission que même Chateaubriand avait rêvé du passage du Nord-Ouest, et que quand il était parti au début des Mémoires d'Outre-Tombe, il relate sa traversée de l'Atlantique, et il pense qu'il rêverait de faire ce passage qui est si difficile. Pourquoi j'ai pensé à ça? J'ai pensé à ça simplement parce que l'idée de passer des sciences exactes aux sciences humaines est une idée que les philosophes ont depuis très longtemps. Et La plupart des écrivains pensent que c'est un passage facile. C'est-à-dire que dès qu'on a des idées extrêmement précises et rigoureuses sur telle et telle définition ou sur les sciences de la nature, il suffit de les transporter comme si de rien n'était, de l'autre côté du savoir, et que ça marche très bien avec les hommes. Donc l'espace du transport est parfaitement
aisé,
libre et lisse, comme si on traversait, autrement dit, l'Atlantique. Eh bien, pas du tout. Quand on passe d'un type de savoir à l'autre type de savoir, le passage est d'une complexité immense. Et c'est l'idée simplement de la complexité du transport des idées et des notions, et même des définitions, qui m'a donné à un moment l'idée qu'on pouvait le comparer tout à fait à ce passage.
Alors, je voudrais vous demander de préciser une chose. Qu'est-ce que vous appelez science humaine ?
Oh bien, pour parler grossièrement, tout ce qui est de l'ordre de la linguistique, anthropologie, psychologie, sociologie, tous ces mots en logis ou en ic.
Oui, mais j'ai eu l'impression que vous faisiez appel à des choses qui n'étaient pas dans ces mots en logis. Enfin, je veux dire, vous parlez aussi bien des légendes, des contes de bonnes femmes, des mythes,
bien sûr, mais ça,
du sacré, du religieux. Au fond, le passage que vous essayez de chercher, c'est aussi entre le sacré et le scientifique.
Mais le sacré, ici, c'est simplement une des composantes de l'anthropologie, c'est-à-dire l'histoire des religions. Ça fait partie de l'histoire des religions, de l'histoire générale de l'anthropologie. Mmh. Et il est bien évident que l'histoire des religions, comme l'anthropologie, font partie des sciences humaines. Et à certains égards, je pense souvent que l'histoire des religions est une des disciplines les plus profondes en matière de sciences humaines. C'est pour ça que j'en parle, en effet. Il est vrai que je parle très peu de psychologie,
sociologie, etc.
Mais j'en parlerai.
Et voilà. Alors, vous utilisez une expression qui est belle, c'est la randonnée.
Oui, j'ai utilisé ce mot simplement parce que... C'est un mot qu'on regrette, le mot randonnée. Parce que, au Moyen-Âge, dans le français, dans l'ancien français, il y avait une expression de chasse. Lorsqu'un chasseur était à cheval et qu'il courait après un gibier, il disait qu'il courait à randon. Et ce mot à randon voulait à la fois dire qu'il courait très vite, qu'il forçait le gibier, mais que le gibier, pour l'éviter, faisait des bonds à gauche, à droite, tout à fait aléatoires et imprévus. Et par conséquent, à randon voulait dire à la fois aller vite et avoir une sorte de... Une route comme une mouche, vous voyez, comme le cerf qui était
irrationnel.
Un peu irrationnel. Oui. Voilà. Or, il se trouve qu'avec l'évolution du mot... Le mot random est allé en Angleterre et il a donné random, at random, qui veut dire au hasard. Et il a donné en français le mot randonnée, qui veut dire la promenade. Alors, c'est dommage qu'on se soit partagé la chose, parce qu'au début, quand on disait à random, on voulait dire à la fois la promenade, c'est-à-dire la randonnée, et cette randonnée at random. Mm-hmm. Et alors, j'ai essayé d'employer le mot en le faisant revenir de l'anglais au français, du français à l'anglais.
Oui, voilà. Mais voilà.
J'emploie le mot randonnée de cette façon-là.
Mais je trouve qu'il y a une espèce de paradoxe dans le fait d'employer cette expression randonnée qui donne l'idée d'une promenade, enfin d'une balade.
Oui.
Un peu hasardeuse.
Oui,
si
on prenait l'itinéraire de Willy de Ross, par exemple, et qu'on le copie sur une carte de façon très très locale, la façon dont il passe à gauche, à droite, puis reculer, puis revenir, on aurait exactement une randonnée au sens que je donne à ce mot.
Au sens où vous dites. Oui.
Sans doute, il a fait la mouche. Vous avez dû faire la mouche quelquefois.
Ah oui, certainement.
Aller en avant, en reculant.
Ah, mais il est revenu sur ses pas, etc.
Oui, c'est ça.
Non, mais ce qui me semble un peu paradoxal, c'est donc l'utilisation de ce mot, et par ailleurs un projet qui est quand même très ambitieux, qui est un projet
très
de synthèse.
C'est ça, oui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de paradoxe? Parce que vous aussi, votre projet est aussi héroïque et aussi épique que celui de Willy de Rose.
Oui, mais moi, mon projet, c'est un projet de solitaire dans mon bureau, tandis que lui est un solitaire dans son bateau. Et je trouve que lui, il est dans le monde, et moi, je suis dans le papier. Mm-hmm. Et j'ai un petit mépris dans mon cœur pour les hommes de papier et une grande admiration pour les hommes qui sont dans le monde. Et c'est pour ça que devant lui, je suis un petit peu à un état d'humilité.
Non, parce que je ne partage pas ce mépris. Ah bon? Pas du tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout.
Vous avez peut-être raison, d'ailleurs, mais...
Pas du tout. Je trouve que c'est une autre démarche, mais qui apporte quelque chose...
Ah oui, je comprends. À ce que vous appeliez le savoir universel tout à
mais
l'heure.
Mais c'est ça, oui, précisément.
J'en ai conscience, bien sûr. Mais si vous voulez, on a l'impression qu'on court moins de risques. Voilà, tout simplement, c'est aussi...
Oui, oui, c'est vrai. Peut-être c'est vrai. Bien, mais...
Michel Serres, encore une question avant de demander à Willy de Rousse de raconter son voyage, parce que moi j'ai très envie qu'il le raconte. Simplement encore à propos de votre projet, est-ce que ce n'est pas un projet un peu encyclopédiste enfin,
oui, tout à fait.
Et est-ce que ce projet encyclopédiste, qui était possible pour Leibniz, qui était possible pour Pascal pouvait avoir d'une part l'esprit des géométries, d'autre part l'esprit de finesse, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui?
Il y a deux questions dans votre question. Oui. Alors, je vais d'abord répondre à la première. Je crois que ce n'est pas la peine de commencer à faire de la philosophie quand on est jeune si on n'a pas envie de faire le tour du monde. Quand je dis le tour du monde, je le dis par métaphore de nouveau. C'est-à-dire qu'un philosophe, par définition, doit passer partout. Il doit étudier à peu près toutes les... Il doit voir grand. Voilà. Par conséquent, le projet encyclopédique, ce n'est même pas un projet, c'est... presque ce que j'appellerais la méthode. C'est la condition. Si un philosophe n'est pas ou n'essaie pas d'être un peu encyclopédiste, ce n'est pas la peine qu'il fasse de la philosophie. Voyez, bon, ça c'est une condition qui est tout à fait déterminée. Deuxième question, est-ce que c'est possible ? Alors, dans la question « est-ce que c'est possible ?», il y a l'exemple des philosophes précédents. Et vous croyez, vous, Michel, qu'au XVIIe siècle, c'était facile ?
Non, ce n'était pas facile.
Vous croyez que c'était possible ?
Il fallait
avoir
le savoir.
Mais les gens au XVIIe siècle avaient la même idée de la science que nous l'avons maintenant. Mm. C'était aussi immense que maintenant, aussi difficile de faire, de faire cette traversée. Un petit exemple. Vous parliez de Leibniz tout à l'heure. Leibniz trouve à un certain moment ce qui est devenu sous sa plume l'analyse combinatoire. Bon, eh bien, les traités de ce qui s'appelle l'analyse combinatoire avant Leibniz faisaient plusieurs volumes et il a découvert un théorème qui a mené à une ligne plusieurs volumes de calcul. Par conséquent, la science en avançant, quelquefois, résume de façon foudroyante des tas de choses qu'on pouvait difficilement résumer avant, vous voyez. Alors, on a toujours l'idée que la science en avançant multiplie ses difficultés. Non, quelquefois, elle les résume de façon foudroyante dans un court-circuit d'une grande simplicité. Bon, donc je peux dire que à l'époque des Grecs, à l'époque du Moyen-Âge, à l'âge classique ou au XVIIIe, la difficulté était aussi grande que maintenant, compte tenu de leurs moyens et compte tenu de leurs projets. Par conséquent, dire que c'est plus difficile ou plus impossible maintenant, est simplement un point de vue, se mettre au point de vue d'eux. Non, je ne crois pas que ça soit. Si c'est impossible maintenant, c'était impossible aussi avant. Voilà. Et puis, si c'est impossible, on va essayer de le faire. C'est impossible aussi de passer le passage du Nord-Ouest. Alors, eh bien, on cherche une difficulté et puis on le passe.
Voilà. Alors, Willy de Rose, est-ce que vous pourriez un peu nous raconter votre itinéraire ? D'où êtes-vous parti ?
Eh bien, j'ai quitté donc l'Europe avec comme dernier port Falmouth, dans la Manche. Puis, de là, j'étais seul à bord à ce moment-là, 28 jours plus tard, j'ai atterri sur la côte ouest du Groenland dans un petit port esquimau qui s'appelle Igdesminde, qui était déjà assez bien dans le cercle arctique, 68 degrés 43 minutes nord, donc déjà bien dans le nord.
Mais attendez, avant, vous avez rencontré votre premier iceberg avant ?
Oui, les premiers icebergs, je les ai rencontrés dans le détroit de Davis. Et donc, disons, à la hauteur du Cap Farewell, qui est la pointe sud du Groenland. Et en effet, d'abord, les glaces étaient modestes, elles sont vite devenues plus importantes.
C'est-à-dire qu'au départ, il y a des icebergs, mais qui se déplacent, qui sont en eau libre.
Et les icebergs, en général, flottent donc. Oui, en effet, ils dérivent avec le courant ou avec le vent, et parfois s'échouent, ce qui fait qu'ils s'arrêtent. Et dans l'ensemble, tout cela fait une difficulté de cette navigation, c'est que vous êtes dans un paysage qui change constamment, mais qui n'est pas rationnel.
C'est ça. Oui.
Qui est imprévisible, parce que lorsqu'il y a du vent et il y a du courant, l'iceberg qui est profondément immergé est conduit par le courant. Mais l'iceberg qui est moins profondément immergé écoute le vent, ce qui fait qu'un iceberg peut aller à droite, un autre peut aller à gauche.
Ah, pour les mêmes conditions.
Ah oui, absolument. Oui, ce qui fait que la compréhension du paysage qui vous entoure est difficile. Et lorsque ceci se passe alors dans l'océan polaire au nord de l'Alaska, lorsque vient la nuit, et vous êtes pour un long moment donc dans la banquise, eh bien, avant d'avoir une idée exacte du mouvement des glaces, vous dessinez chaque heure un facsimilé du radar, de l'écran radar, et vous comparez, et à la longue, au bout de 3, 4, 5 heures, vous commencez à avoir une idée comment tout ça évolue, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à prévoir que tel volume de glace va être dangereux pour vous dans autant de temps, etc.
Il y a du prévisible dans ces mouvements un peu compliqués.
Oui, dès l'instant où l'observation est longue assez que pour avoir une compréhension. Et qu'aucun des éléments ne change. Si le vent tourne, tout est à recommencer, bien entendu.
Oui, bien sûr.
N'est-ce pas? Mais pour autant qu'il y a une stabilité dans les causes qui déplacent les différents volumes de glace, et dans ce cas-là, on peut faire une prévision. Bon, donc, Ege de Smeende au Groenland, là, un équipier belge m'a rejoint, Jean-Louis de Gerlache, et c'est alors ensemble que nous avons tenté de remonter dans le nord. Alors, je ne peux pas vous raconter tout le passage du Nord-Ouest, ni toutes ces difficultés, mais les premières difficultés sont venues dans la baie de Melville. Et Amundsen, dans son livre, avait signalé d'ailleurs que c'était potentiellement un des moments difficiles du parcours. Et la baie de Melville se trouve dans le nord de la baie de Maffin, qui, elle, se trouve par la latitude d'environ 75 degrés nord, le long de la côte du Groenland. Et il y a...
Là, dans la baie de Melville, vous avez été pris par les glaces.
Oui, oui, j'ai été prisonnier de la banquise dans la baie de Melville.
Et Amundsen avait été prisonnier là.
Non, Amundsen avait eu un passage relativement facile. Mais cette même année, 1903, l'année du passage d'Amundsen, la Vega, un baleinier, son bras, et la baleinier, un autre baleinier, fut tenu prisonnier pendant 80 jours. Alors, la grande difficulté de la baie de Melville provient du fait que la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland, vient au niveau de l'eau. Il y a beaucoup de glaciers, et ces glaciers veulent, bon an, mal an, environ 5400 icebergs. Et précisément, ces icebergs vont tomber dans la banquise qui recouvre la mer, et comme les mouvements des icebergs sont très différents par rapport au mouvement de la glace de surface pour les raisons de courant, etc., eh bien, ces icebergs vont exercer une énorme pression sur la glace de la baie de Melville. Ils vont briser cette glace, et le navigateur qui tente de transiter par la baie de Melville va se trouver devant un chaos immense de glace.
Et ça a des hauteurs très élevées, c'est très haut.
Ah oui, oui, les icebergs peuvent avoir très facilement 50-60 mètres de hauteur. Ah oui, et les 8 dixièmes étant immergés, on peut avoir immédiatement une idée de l'énorme volume de la masse, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison-là qu'il faut avant tout éviter de se trouver pris entre des volumes de glace qui ont une vitesse différente, car ça libère une énergie cinétique qui est incommensurable, et la coque du bateau ne peut pas résister.
Pas.
Oh non, non, c'est une noix dans un étau, c'est crac et c'est fini.
Alors, tout ça se passe dans l'extrême nord de la baie de Baffin.
Oui.
Alors, je voudrais vous faire entendre une espèce de jeu traditionnel des Esquimaux de la baie de Baffin. Il s'agit d'un jeu de souffle. Deux femmes se mettent l'une en face de l'autre et elles se soufflent dans la bouche. Et la première qui perd rit. Ou la première qui rit perd. Je ne sais pas très bien dire. On va écouter ça peut-être. Voilà, il y en a une qui a perdu.
Oui, je vois.
Alors, oui, quelles sont, Willy de Rousse, les difficultés spécifiques de la navigation dans ces eaux-là? Vous avez parlé des glaces, mais il y a d'autres choses auxquelles on pense, même quand on ne connaît pas, par exemple, le jour continu, le soleil de minuit, le fait qu'il fait tout le temps jour.
C'est une difficulté redoutable. Car sous nos latitudes, toutes nos activités sont rythmées par le changement du jour, diurne du jour et de la nuit. Et là, il n'y a plus de rythme naturel. Et vous devez maintenir un rythme. Il faut le maintenir d'abord pour des raisons physiques. Il faut maintenir à l'organisme un certain automatisme. Et je pense simplement, par exemple, au rythme de la digestion. Vous devez manger à heure fixe, sinon vous allez très vite avoir de graves problèmes de constipation, par exemple. Mais au-delà de ces nécessités physiques, il y a une nécessité morale qui est beaucoup plus importante, car il faut peut-être le dire tout de suite, nous étions certes aussi libres qu'on peut être libre, puisque nous prenions toutes nos décisions sans avoir à rendre de compte à personne. Mais il faut être conscient que la liberté totale n'existe nulle part. Et que si on n'a pas de loi écrite, il faut avoir ses propres lois. Car si on y prend garde, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on est assis sur l'escalier de descente, on mange dans une boîte de conserve, on ne cuisine plus, on ne met plus la table.
Une discipline.
Et on déchoit. On perd alors le respect de sa personne, on perd la confiance intérieure, et lorsqu'on a perdu cela, on a tout perdu. Car vous n'arriverez plus jamais à mobiliser l'ultime de vos forces. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord une discipline de fer, et cette discipline de fer est rendue difficile par le jour continu. Le jour continu qui a d'ailleurs une autre difficulté, c'est que vous allez tenter, parce que le temps disponible, le temps utile pour faire le passage l'été dans l'Arctique est très court, vous allez donc être tenté de naviguer
tout le temps.
Tout le temps.
Oui, c'est ça. D'autant plus qu'en effet, moi j'ai aussi l'expérience du jour continu, on n'a pas sommeil dans les premiers temps.
Non, c'est difficile de...
C'est difficile de dormir en plein jour.
C'est ça.
J'ai eu aussi la même expérience.
De maintenir le rythme est très, très, très difficile.
C'est exact.
Et alors, vous allez d'autant plus être tenté de naviguer que même si vous arrêtez le bateau pour dormir, la banquise, elle, ne s'arrête pas. Et alors, vous allez devoir vous lever pour manœuvrer, etc. Et comme vous êtes quand même debout, vous allez dire, ben, zut, je continue.
Et il y a eu des moments, enfin on le lit dans votre livre, où vous dormez une demi-heure et puis vous restez réveillé 36 heures. Enfin,
oui, mais absolument, absolument. Le manque de sommeil est devenu chronique et a créé des problèmes très graves à la fin. Mais si je prends par exemple la traversée de la baie de Melville, la baie de Melville avait pris 117 heures. 117 heures, ça équivaut à peu près à 5 jours. Et sur les 5 jours, nous avons dormi 10 heures. Mais 10 heures, une demi-heure de temps en temps, n'est-ce pas? Et la baie de Melville, en réalité, n'était rien de particulier. Donc, les mois s'écoulant, le retard de sommeil devenait immense.
Alors, il y a un autre problème qui se pose lorsqu'on voyage par des latitudes aussi hautes. Je ne sais pas si...
Oui, absolument.
Mais c'est pour justement la direction. Tous les instruments qui indiquent le nord, une fois qu'on est à l'extrême nord, à quoi servent-ils?
Eh bien, ils ne servent à rien. C'est-à-dire que le compas magnétique ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, d'ailleurs, dans toute l'étendue du voyage.
Et alors, comment faites-vous pour vous orienter?
Eh bien, vous n'avez plus d'orientation, sinon le soleil ou les astres.
Et les astres, non, puisqu'il y a le soleil.
Dans la deuxième partie de l'été, lorsqu'il y a la nuit, on a les astres, et ils sont très importants, d'ailleurs. Mais lors du jour continu, il y a le soleil. Et évidemment, les jours où le ciel est couvert, les jours où il y a du brouillard, sont des jours où l'anxiété intérieure est très grande, car on est en passe de perdre le nord.
Complètement. On ne peut pas faire d'estime du tout.
Non, on ne peut pas, à moins qu'on soit en vue de terre et qu'on puisse se repérer au radar, etc. Mais souvent, les terres, souvent, dans l'Arctique, sont très basses,
pertes, oui.
Ce qui fait que le radar ne donne pas d'indication tout le temps.
Est-ce qu'il y a quelquefois des erreurs qu'on peut faire au radar entre les glaces et les terres?
Non, je pense que je suis arrivé à une assez bonne définition.
Parce que
c'est un apprentissage à faire, n'est-ce pas?
Et quel est le genre de distinction qu'on peut voir?
Eh bien, la côte s'inscrit de façon plus nette.
Ah, d'accord.
La glace, c'est un écho, plus flou.
Plus flou,
l'onde pénètre, un peu plus profondément dans la glace. Et je dois dire que voilà, par exemple, quelque chose que j'apporte au savoir universel, c'est que j'ai eu très difficile avant le départ de savoir si un iceberg était un bon impact.
Ah oui.
Sur le radar.
Radar. Eh bien, je peux dire oui. Il est très visible à partir de 12 000, vous repérez l'iceberg.
Mais pas les petits bouts d'iceberg.
Ah non, pas les gros, car vous savez que l'iceberg se détache, mais vous êtes bien au courant, je vous félicite.
J'ai lu votre livre.
Alors les gros, l'iceberg, il se détache des petits morceaux, petits, tout est relatif, bien sûr, parce que ça pèse des tonnes. Et ces petits morceaux, eux, ne sont pas visibles sur les grands radars, car souvent, ils se mélangent au retour des vagues, si vous voulez. Mais, de toute façon, là aussi, c'est une technique. Un iceberg se dépasse toujours au vent, puisque les growlers vont avec le vent et s'écartent de l'iceberg. Mais ne remontent pas au vent, par conséquent, lorsqu'on passe au vent de l'iceberg, on ne risque pas de rencontrer des growlers.
Alors, une dernière question sur les difficultés spécifiques du voyage dans le Nord. Est-ce que vous avez eu froid ?
Oui, j'ai eu froid. J'ai eu froid, mais le froid n'a jamais été, disons, très profond. Il faut bien vous dire que Michel Serre l'a spécifié, j'ai fait le passage en une seule saison, donc dans une saison estivale. Estivale, entre guillemets, il faisait moins 13 lorsque j'ai doublé Baron. Et au printemps, le long de la côte du Groenland, il faisait moins 15. Et pour ceux qui savent que l'hiver va donner dans l'Arctique des températures de moins 60, par exemple, Amundsen signale moins 66, doivent savoir que le thermomètre n'est pas une indication suffisante.
Ça dépend de la sécheresse et du vent. Oui.
Du vent. Ça dépend du vent, oui. Moins 60 est toujours sans vent. C'est une constante, car les très basses températures naissent dans des zones de haute pression qui ne donnent pas de vent. Et je puis vous assurer que moins 20, avec du vent, est beaucoup plus difficile
à supporter. Avec du vent, c'est beaucoup plus difficile de supporter des températures quelquefois beaucoup moins basses.
Oui, la déperdition calorifique au
vent est énorme.
Très
énorme. Aviez froid surtout aux mains ?
Et surtout les mains, car malheureusement, il n'existe pas de gants qui sont à la fois étanches et chauds.
Alors qu'est-ce que vous faisiez ? Vous mettiez plusieurs gants
les uns
sur les autres ?
Eh bien, je n'oserais presque pas le dire où je fourrais mes mains au micro, mais je les mettais là où il faisait chaud. Soit... J'essayais du moins. Et je dois dire que lorsque, après, on souffre de l'onglet, c'est très douloureux. C'est très douloureux. J'ai eu des moments vraiment où les doigts étaient raidis, où il n'était plus moyen de faire la voilure.
Le plus méprisé, le plus délaissé des objets usuels de la philosophie depuis au moins un demi-siècle est le monde. Ce monde où nous ne vivons plus, dont nous allons visiter parfois les décombres fossiles aux lieux les plus éloignés de nos savoir-faire, ce monde vaincu, mutilé, hideux bientôt, que nous pouvons enfin bouleverser à notre guise sans trop savoir ce qu'il en sera. Lisez ce qui paraît en France depuis ma naissance au titre de philosophie, vous n'y trouverez pas une racine d'arbre, une cascade, un fleuve, la plaine, jamais le sourire de l'océan. Cela pourrait se nommer l'acosmisme. Nos tyrannies n'ont pas besoin du monde. La philosophie n'est pas seule à perdre le monde, comme on dit que l'on perd le Nord. La science, qui pourtant avait le projet de le dire, de le donner, de le comprendre, d'en préparer les productions, l'a perdu tout autant, tout aussi récemment que la philosophie, pour les mêmes raisons peut-être, et tout aussi complètement que chacun d'entre nous. Éclatée comme la mitraille, en multiples spécialités, elle ne libère aucun lieu d'où voir grand, une myriade et plus de faisceaux raffinés de lumière fouillent des isolats de plus en plus étroits, y amènent d'autant plus de clarté qu'ils en chassent les ténèbres sur le pourtour, d'où l'effet de lucioles dansantes dans son obscurité globale épaisse. Au bout du compte, on apercevait mieux la caverne par le vieux feu fumeux qui piquait les yeux. Il y a longtemps que je n'avais pas, sitôt refermé un livre de science, revu ou vu nouvellement ce que les Grecs nommaient le sourire innombrable des eaux, ressenti par ses instructions autrement les rafales de vent, retrouvé, changé le chaos des étoiles, relu la dissémination des archipels, la dentelure des rivages et la scie des sommets. Non pas bien sûr le monde comme totalité nouvelle ou comme universelle, idée abandonnée déjà par nos arrière-grands-parents, mais le monde par grands ensembles de fragments, le monde par paquets de formes. On avait si souvent relégué dans la poésie intimiste ou dans un arcadisme vacancier les dits de la mer, de l'air et des îles, que les retrouver tout à coup dans les mathématiques et l'histoire m'avait donné de la suffocation. Longtemps, depuis Perrin, depuis Lucrèce, que la science ne m'avait pas poussé dehors, dehors, pour revoir ce que je n'avais jamais vu, dehors, comme faisaient sans doute les physiciens Dionys. Laissons-nous conduire par Benoît Mandelbrot, sortons. Le monde terraqué nous revient grâce à lui par immenses morceaux, le vent, l'océan, le rivage, ce sera bientôt la fête du monde, ou le retour de l'oublié. Michel Serres, Le passage du Nord-Ouest. Michel Serres, vous voulez faire sortir la philosophie, la science, dehors. Je me souviens que dans votre livre sur Lucrèce, vous disiez que Lucrèce était dehors et que le De Natura Rerum marchait devant, sous l'orage et la pluie, etc. Et vous faites allusion dans le texte que je viens de lire à l'objet fractal de Mandelbrot. Alors, l'objet fractal de Mandelbrot, ça m'a donné un peu de mal, mais j'ai cherché dans un dictionnaire et j'ai vu que l'objet fractal, concept introduit par Benoît Mandelbrot en 1975 dans le but d'étudier les processus et les formes irrégulières et ou fragmentées que l'on trouve dans la nature. Éponge, nuage, trou du fromage de gruyère, etc. Ou en mathématiques. Ouais. Et du reste, vous faites allusion à l'éponge et au trou du fromage de gruyère dans votre livre. Et donc, vous sortez pour vous rendre compte que le réel est infiniment complexe, est infiniment plus complexe,
qu'on ne le croit, oui.
Que la philosophie et les sciences ont bien voulu nous le faire croire jusqu'à maintenant.
Mais, comment vous dire, c'est une question formidablement difficile, Michel, pour me poser là. Mais j'ai coutume de prendre une comparaison un peu plus simple pour essayer de faire voir ce que je veux dire là. Je crois qu'un marin peut comprendre la comparaison que je donne. Lorsque on fait son point au sextant, on fait confiance à un certain ordre des planètes et du monde. Et on a toujours l'impression qu'il y a un bon ordre, qui est celui du soleil, des planètes, etc. Et qu'en dessous, à la taille au-dessous, il y a un ordre de phénomènes qui est un peu plus ennuyeux, qui est les phénomènes météorologiques, qui ne sont pas en ordre parce qu'ils ne sont pas prévisibles de la même manière qu'une comète, le passage d'une comète ou une éclipse qui est prévisible à la seconde près. Alors on a l'impression qu'il y a un monde bien en ordre et puis un monde en désordre, mais enfin, le monde en désordre, il est moins important que celui qui est vraiment en ordre. Et la plupart des philosophes depuis l'âge classique, Michel, pensent ainsi. C'est-à-dire que les phénomènes météorologiques ou les phénomènes désordonnés sont moins fondamentaux, finalement, que les phénomènes ordonnés. Et j'ai essayé de renverser un peu cette idée et de dire qu'au fond, lorsqu'on regarde le ciel, non pas seulement ce monde un peu étroit qui est celui des planètes et du Soleil, mais vraiment les étoiles et les galaxies, etc., on s'aperçoit qu'il y a un désordre aussi généreux, aussi luxueux que dans les météores. Et que peut-être on pourrait imaginer que l'ordre du monde, celui des planètes et du Soleil, est simplement un ordre un petit peu, comme ça, un peu mince, entre un énorme désordre qui le déborderait de toutes parts. Ça a été ça ma première intuition, et l'idée que, au fond, quand on regarde ensuite un certain nombre de choses sur notre globe lui-même, la série des objets dont vous avez parlé à propos de Mandelbrot, on s'aperçoit aussi qu'il y a des désordres extraordinaires. Par exemple, comment imaginer qu'on puisse prévoir ou décrire la côte de la Bretagne ou la côte du Groenland ou le passage du Nord-Ouest? Vous voyez que l'extraordinaire désordre d'îles, d'archipels, de détroits est là. Et ce n'est pas du tout un ordre qui reproduit l'ordre des planètes et du Soleil. Et de nouveau, on a là, sur la carte terrestre, de nouveau, une sorte de désordre aussi luxueux, aussi généreux, aussi abondant, luxuriant, que celui des météores ou que celui du grand univers. Vous voyez que tout d'un coup, on a l'idée que la vision du monde de nos ancêtres classiques est un petit peu trop ordonnée, que peut-être on pourrait voir ça autrement.
Et
ma rencontre avec Mandelbrot, ça a été ça. C'est-à-dire que Mandelbrot fait voir, à partir de théorèmes mathématiques sur lesquels je ne peux pas m'étendre ce soir, fait voir qu'on peut essayer de reproduire ce type de courbe ou ce type d'objet qu'est des objets infiniment troués comme une éponge ou comme un rocher tel qu'il se trouve bombardé par les éléments ou que la côte de Bretagne, dans son caractère déchiqueté, ou que la dispersion des îles dans un archipel un peu composite, et ainsi de suite. Et il donne des éléments mathématiques, à la fois statistiques et géométriques, pour essayer même de reproduire, même il arrive à reproduire à l'ordinateur ce type de dispersion presque aléatoire. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que, alors je vous réponds sur la question dehors, que la physique ou les sciences exactes telles qu'on les pratiquait, on les pratiquait sur des phénomènes très découpés et à l'intérieur des laboratoires. Et qu'à force d'étudier des phénomènes qui étaient parfaitement découpés à l'intérieur des laboratoires, on n'avait plus, quand on allait dehors, de point de vue du savant ou du point de vue du physicien. Le point de vue du physicien, il est presque toujours dedans, à l'intérieur. Et que ces nouvelles découvertes mathématiques ou physiques m'avaient tout d'un coup transformé ma perception. Par exemple, Mandelbrot raconte dans ses objets fractales comment un objet peut être coupé, puis coupé à nouveau, puis coupé à nouveau, presque indéfiniment, avec des distributions aléatoires à l'intérieur. Et quand on regarde la mer, il est vrai, comme je le dis dans le texte qui a été cité tout à l'heure, il est vrai que j'ai vu pour la première fois la houle, et à l'intérieur de la houle, les petites houles qui sont à l'intérieur de chaque... Et les petites houles qui sont à l'intérieur de chaque fracture de houle. Et pourtant, j'avais beaucoup navigué dans ma vie. Pourtant, j'avais souvent vu la mer, ce que précisément les Grecs appellent le sourire innombrable de la mer, qui est cette espèce de réfraction infinie. Et je ne l'avais jamais compris avant d'avoir étudié cet auteur. Et c'est pourquoi j'étais extraordinairement reconnaissant à cet auteur de m'avoir fait percevoir les choses ordinaires autrement que je ne les percevais avant. C'est effectivement la première fois que ça m'était arrivé depuis très longtemps. Qu'on pouvait voir la mer d'une nouvelle façon, la côte de Bretagne d'une nouvelle façon, l'archipel autour d'Ouessant d'une nouvelle façon, et que cette façon était rationnelle dans le désordre. C'est-à-dire apporter une nouvelle façon de saisir les choses dans ce qu'autrefois on appelait le désordre. Introduire un nouveau rapport entre l'ordre et le désordre. Je crois que j'avais été enivré par ce livre-là, parce que c'est quand même rare qu'un auteur vous fasse voir autrement la mer que vous aviez l'habitude de le faire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paralysant aussi dans ce... comment dire, dans cette nouvelle façon de voir le réel? Est-ce qu'on ne se noie pas dans le détail?
Le mot détail est un mot intéressant, Michel. Ça veut dire qu'on coupe les choses en morceaux. Parce
oui.
que détail, ça veut dire tailler.
Oui, je parlais
de ça. Et la mer, telle que je la voyais après avoir lu Mandelbrot, elle se détaillait.
C'est ça.
Vous voyez. Mmh. Alors, bon, mais qui c'est qui n'a jamais... On ne travaille pas tant qu'on ne cherche pas à se noyer d'abord dans le problème avant de le résoudre.
Non, je disais ça parce qu'il y a un nom qui traverse votre livre, c'est celui de Zénon. Il y a le paradoxe de Zénon qui ouvre votre livre.
C'est ça. Alors, c'est lui qui fait sa randonnée.
Mmh. Alors pourquoi Zénon? Qu'est-ce qu'il fait Zénon au travers de votre livre?
Eh bien, il se trouve que... Le vieux paradoxe de Zénon, c'est tu pars d'ici et tu n'arriveras pas là-bas. Tu pars de la terre de Baffin et tu n'arriveras pas au détroit de Béring. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on peut démontrer que ça coupe, et puis ça, etc. Alors l'idée que j'ai eue en commençant le livre, c'est de donner un bon exemple de randonnée en généralisant le paradoxe de Zénon. Ça, c'est un peu compliqué,
c'est pas la peine
que je crois que je le dise à la radio, mais simplement dire que le texte qui ouvre mon livre... a l'air comme ça d'être un petit poème bien léché. Et si on le regarde de près, mais on peut ne pas le regarder de près, ça peut être lu de façon tout à fait naïve. Si on regarde de près, c'est une généralisation mathématique progressive du paradoxe de Zénon, du paradoxe grec, jusqu'à la reproduction de la courbe de Von Kor. Mais c'est un détail qui peut n'être pas connu. On peut lire ce... texte sans le savoir. Mais si on le sait, c'est plus intéressant.
Mais si vous permettez, je vous demandais à Michel Serres si on peut dire que vous détaillez. J'ai l'impression que c'est moi qui détaille quand je vois la mer comme vous la voyez avant. Je ne vois qu'un détail de la mer.
C'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Donc le détail,
c'est quand
moi.
On le voit mal, c'est ça.
C'est ça.
Oui, je comprends. Et quand on le voit, quand on voit tous les détails, on finit par la voir en entier.
C'est ça. Donc il faudrait plutôt mettre le détail à l'opposé.
Oui, ça, il est vrai que le livre de Les objets fractales de Mandelbrot donne une nouvelle perception des choses que nous avons l'habitude de voir et dont nous nous apercevons qu'on ne les avait pas vues. Et quand quelqu'un vous apprend ça, il a droit à des respects spéciaux.
Lorsque vous entendez parler Willy de Rose de navigation à l'estime,
oui.
Et lui aussi de désordre et de hasard. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de lire un peu votre propre méthode?
Oui, je crois que mon livre aurait été meilleur si j'avais lu d'abord le sien. C'est-à-dire que, effectivement, on a l'impression... Ce que vient de dire Willy de Rose, par exemple, sur la perception... des icebergs selon leur grosseur, leur taille, les vents et les courants. Ça m'a beaucoup impressionné tout à l'heure. En effet, vous disiez que vous aviez une perception d'un certain champ d'icebergs qui vont dans des sens très différents et qu'il faut en faire des photos successives pour avoir en gros une idée du prévisible. Voilà une extraordinaire image d'un ordre dans le désordre et d'une rigueur dans le flou.
Absolument.
C'est ça.
Absolument.
Ah, je trouve ça très très beau et effectivement, c'est une vision du monde qui m'accompagne depuis quelques années. Vous voyez que l'ordre et le désordre sont liés l'un à l'autre d'une façon plus complexe et plus extraordinaire qu'on ne le croit généralement.
Oui, car en réalité, le désordre ici n'est qu'apparent. Puisqu'il y a un certain ordre que la réflexion... Peut
mettre en évidence.
C'est ça.
Oui,
c'est ça.
Et vous arriviez quelquefois à avoir de bonnes prévisions sur les mouvements?
Eh bien, oui, pour autant que les éléments qui mettent la banquise en route, donc le courant et le vent, restent stationnaires, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, oui. N'est-ce pas?
Je vais vous poser une question. Oui. Là, qui, dont je brûle de vous la poser depuis quelque temps. Voilà, vous êtes devant votre écran radar. Depuis une heure, vous avez l'impression que ça va dans ce sens et que ça va dans l'autre. Quand vous prenez la décision, au fond, vous la prenez quelquefois à l'intérieur de la raison ou au-delà de la raison?
C'est un peu une question difficile.
Il y a l'audace en plus.
Pour autant que je trouve la raison, je reste près de la raison.
Le plus possible.
Le plus possible. Et je suis très attaché au,
je comprends ça,
au raisonnable.
Moi aussi.
Car nous voyons vite en mer que, et c'est la même chose pour tous ceux qui vivent près de la nature, qu'il y a une prépondérance de la raison sur la force physique.
Oui, ça c'est sûr, oui.
Sur le plan de la force physique,
nous
la force des éléments,
animaux.
Voilà, c'est
nous
ça.
Nous sommes de pauvres petits animaux.
Oui. Tout simplement.
Pas, tout à fait d'accord.
N'est-ce pas? Mais l'homme, grâce à son intelligence ou à son savoir, peut éviter l'impact direct avec les éléments et parfois même mettre la force des éléments à son profit. Donc, je suis de plus en plus attaché
Au raisonner. Cependant, oui, Lydre, cependant, oui. Il y a un moment dans votre livre qui est vraiment très impressionnant. C'est, voilà, vous venez de débouquer en mer de Beaufort et vous arrivez à Barreau et toute la fin du livre est au-delà de la raison.
Oui.
On a l'impression là que il y a quelque chose de plus que la raison qui se passe, non?
Oui, c'est-à-dire que à ce moment-là. Vous rappelez, donc nous sommes à la fin du voyage, nous sommes dans l'océan polaire, et je suis physiquement très atteint, épuisé. Car là, épuisé, vraiment épuisé, mais disons à un niveau déjà très important, et je suis habité par la peur de tomber en syncope et la peur de perdre la raison. Car le manque de sommeil a fait que le cerveau est tout à fait désoxygéné, et que au niveau du cerveau, il y a certaines altérations. Par exemple, nous sommes à la fin du voyage, les nuits sont longues, vous êtes la nuit dans la banquise, et admettons que le vent se lève.
Le
vent qui va mettre la banquise en route. Avant de pouvoir dire d'où vient le vent, vous êtes obligé de calculer l'azimut, donc le gisement de la lune ou d'une étoile. Et ce n'est que lorsque vous avez ce gisement et cette direction que vous pouvez dire, tiens, le vent souffle de telle direction, vous pouvez anticiper ce qui se passe avec la banquise et vous pouvez savoir si vous êtes entraîné vers le nord ou au contraire poussé à la côte. Vous pouvez alors prendre les actions nécessaire. Mais dans un degré avancé d'épuisement, le cerveau ne calcule plus normalement et pour dire que 7, 8 font 15, il faut un quart d'heure.
Oui, d'accord.
Vous voyez alors le 7 et le 8, mais vous n'arrivez plus à la faire. Et alors, cet état s'accompagne par une très mauvaise irrigation des muscles qui, eux aussi, sont désoxygénés. Vous avez des crampes partout, les crampes dans les doigts de pied, dans les mollets, dans les cuisses. Et vous savez, car vous êtes conscient, que la marge de sécurité devient très tenue. Et alors, nous revenons un instant à la discipline. Il est très important, à ce moment-là, que vous ne puissiez rien vous reprocher. Que donc les deux composantes de votre personnalité restent en parfait accord avec eux-mêmes. Et le dialogue intérieur qui s'établit alors est un dialogue doux. Car la partie qui commande est consciente de la détresse de la partie qui exécute. Et si je dis ça, c'est que lorsque vous êtes la nuit dans la banquise, toutes les heures et quand les conditions sont mauvaises, toutes les demi-heures, les réveils sonnent. Et nous savons tous que la grande fatigue diminue le sens des responsabilités. Il est alors facile, lorsque pour la dixième fois le réveil sonne, de dire « Oh, il ne va rien arriver, je suis tellement fatigué, je vais rester un peu au lit ». Eh bien, s'il devait arriver quelque chose à ce moment-là, vous reprocheriez d'avoir été paresseux, de ne pas avoir eu de courage. Et ce conflit intérieur, celui-là, briserait votre sérénité et vous mènerait réellement à la folie. Et c'est pour cela qu'il est très important d'avoir un sens de la discipline très très grand, car il faut absolument, lorsqu'on va très loin, rester en parfait accord avec soi-même.
Vous avez senti un petit peu que vous deveniez fou, hein,
c'est-à-dire... J'ai eu très peur de devenir fou, mais...
Mais vous
la
savez,
dernière
quand on fait quelque
carte...
chose de difficile, on va toujours à cet endroit-là, de soi-même. Quand vous avez fini votre livre, vous n'avez pas trouvé que c'était difficile de faire un livre ?
Oui, c'est, bien sûr, oui, bien sûr.
Quand on finit le livre, on finit un livre comme Le Passage Nord-Ouest, à
oui,
l'arracher.
Oui, absolument. Et je dois dire que peut-être ne savez-vous pas que ce que vous dites est tellement réel. J'ai écrit le livre pas très longtemps après Le Passage Nord-Ouest, et j'ai ressenti les mêmes anxiétés en l'écrivant. Je l'ai vraiment écrit
Il faut que les auditeurs sachent bien, et il faudrait que vous leur disiez, Michel, que faire un livre, c'est aussi difficile que ce que dit Willy de Ross maintenant.
Oui, mais absolument.
Ah oui, c'est très difficile, et que la fin se fait comme quand vous allez, comme ça, un peu comme un fou vers le détroit de Bering.
Oui, mais... Ah, oui. Mais, si je peux encore ajouter un dernier mot, j'avais... La dernière carte employée pour atteindre Pointe-Barre, la dernière carte marine employée, se trouve actuellement au musée de la marine à Vancouver. Et elle montre que je tiens une navigation extrêmement rigoureuse et très stricte. Oui. Il y a régulièrement un point sur la carte et les traces laissées par le compas ou par le point sèche démontrent de quelle façon le point a été acquis. Et pour moi, c'est le thermomètre de mon état mental. Je tiens cette navigation stricte pour voir si je suis encore capable de raisonner avec logique.
Pas pour savoir où est le bateau, mais pour savoir où en est Willy.
C'est ça.
C'est ça.
Oui, oui.
C'est ça. C'est-à-dire, c'est le point de Willy et non pas le point du bateau.
C'est bien ça.
C'est bien, c'est, je comprends ça, tout à fait ça.
Beethoven, le 5e concerto pour piano, tant de bons souvenirs s'y rattachent. La douceur du début du 2e mouvement ne pourra que m'apaiser. J'ai toujours prétendu n'être jamais seule, me voilà épousant l'expressivité beethovenienne. Les mouvements alternatifs imprimés au bateau par la légère houle qui ondule les eaux du détroit semblent marquer exactement le rythme de la musique et, petit à petit, j'ai l'impression de m'y intégrer. Je n'écoute plus, je suis dedans. Ce n'est pas Beethoven qui se décharge de ce qui l'opprime, c'est moi. Et, à la fin de l'œuvre, au dernier staccato, j'ai égrené, pour un moment du moins, l'ensemble de mes préoccupations. La pastorale ensuite m'insuffle la paix. Merci, Beethoven. Willy de Rose, Le Passage du Nord-Ouest. Alors, Willy de Rose, un jour, Beethoven vous a sauvé la vie?
Oui, on peut presque dire ça, oui. Il m'a certainement insufflé un nouveau courage.
Un nouveau courage.
Oui, bien sûr. Et je dois dire, ça me rappelle... Vous savez, je suis réellement un peu ému quand je réentends ça. Car je me rappelle que peu après est venu le coup de vent. C'était près du golfe du Couronnement, dans l'Arctique canadien. Et grâce à Dieu est venu ce coup de vent. Car lorsque l'on se trouve moralement atteint, eh bien, j'ai trouvé que la difficulté, souvent, permettait de se reconquérir. Et je crois que réellement, le bonheur, ça n'est pas de vivre sans problème, mais c'est de pouvoir résoudre des problèmes.
Oui, c'est ça, parce qu'au travers de vos difficultés, on a l'impression, en lisant votre livre, que vous souffrez sans arrêt. Et puis en même temps, de temps en temps, vous dites « je suis heureux ».
Mais je suis tellement heureux. J'étais tellement heureux, justement, de pouvoir vaincre ces problèmes. J'ai bien dit vaincre les problèmes, je n'ai pas dit vaincre la nature, ce n'est pas du tout ça, mais vaincre ces problèmes. Et d'ailleurs, je crois que lorsque j'ai doublé Barrow, c'était une des tristesses dans la joie d'avoir réussi.
C'est de n'avoir plus de but.
C'est ça, c'est que ces problèmes n'en existaient tout d'un coup plus.
Alors, je voudrais qu'on reparle un tout petit peu, on en a parlé, de votre solitude. J'ai remarqué donc que vous parliez à vous-même. Il y a une autre chose qui m'a frappée, c'est que vous dites tout le temps « nous ». ».« Nous », c'est le bateau et moi.
Oui, c'est bien ça. Oui, bien sûr.
C'est toujours un être vivant.
C'est un être vivant. Et du reste, on a l'impression que vous faites corps avec le bateau, que quand il reçoit des coups, vous souffrez, vous avez mal.
Oui, absolument, absolument. Il y a, et Michel Serre le sait bien, il existe un lien d'amitié entre le marin et son bateau.
Oui, ça, tout à fait.
Et je crois que chaque fois que je suis venu sur le pont, que j'ai pris... Le manche à air qui aère la salle des machines, c'était comme une caresse.
Ah oui, tout à fait. Ah oui.
Et d'ailleurs, il était tout à fait poli.
Oui, et puis vous parlez aussi du bois dans la cabine.
Oui,
en effet. Vous en parlez de façon très sensuelle, enfin, je veux dire. Alors, il y a une autre chose qui, dans votre solitude, qui vous a beaucoup aidé, ce sont les radios amateurs.
Eh bien, oui.
Et du reste, j'ai remarqué qu'à la fin de votre livre, enfin, vous voyez, j'ai lu votre livre vraiment jusqu'au bout, dans les remerciements, vous remerciez VE2F, G18, etc. Alors, comment ça s'est passé?
Eh bien, je dois dire que j'ai la très grande joie, la très grande chance d'appartenir à cette magnifique famille qui sont les radioamateurs. Et alors, je peux vous assurer que c'est un hublot ouvert sur l'amitié du monde, car il y a sur les ondes une très grande fraternité. Et bien sûr, étant dans un environnement qui était un peu extraordinaire, j'avais beaucoup de radioamateurs qui écoutaient. Eh bien, d'avoir tant de par le monde, car on peut, à partir d'un petit bateau, contacter le monde entier. Eh bien, d'avoir par le monde tant d'amis, souvent, lorsque... Harassé par la fatigue, j'aurais renoncé en pensant à eux. Ils m'ont chaque fois donné cet extra petit courage pour encore avancer.
Mais vous les appeliez comment? Par à heure fixe ou à des moments bien déterminés?
Oui, nous avions... Il y avait les deux, Michel. Nous avions d'abord ce qu'on appelle des skets, donc des séquences. À heure fixe, mais qui change car la propagation des ondes change avec l'endroit où on se trouve. Et à côté des contacts fixes, j'avais un contact fixe avec journalier avec la Belgique, un autre avec la France. J'avais un ami radioamateur au Mans, F6 CU.
Alors du Mans, il a fait le passage du Nord-Ouest.
Et au Mans, du Mans, il a fait le passage du Nord-Ouest. Et il y avait un ami de la Réunion.
Et un autre à Vancouver, je crois.
Oui, absolument.
Que vous avez retrouvé à la fin.
Et à Vancouver, c'était VE7ZQ, mon ami Harry.
Et vous savez quel métier il fait, celui du Mans, par exemple? Vous savez.
Oui, il est électronicien.
Électronicien de métier.
Oui.
Et vous l'avez connu comme ça, au hasard des ondes ou
Et je l'ai connu au hasard des ondes.
Et est-ce que vous l'avez vu physiquement?
Oui.
Ah oui.
C'était tellement, tellement beau que nous sommes tous réunis au Mans après le passage du Nord-Ouest.
Ah, oui.
Tous les contacts sont venus. Et c'est donc là que j'ai appris à connaître ceux que je ne connaissais pas. Et entre autres, vers deux DDR clairs du Québec. Eh bien, c'est là que je l'ai connu.
Et il, donc, est venu au Mans.
Oui, c'était une dame. Une YL, comme on dit dans le langage.
YL, c'est une dame.
YL, oui. Young lady.
Young lady,
oui. Ouais. C'est ça. Alors, nous nous sommes tous rencontrés là, et je crois que c'était un moment d'immense chaleur.
Ah, oui,
et vous voyez que, encore une fois, la difficulté, elle a été sans doute grande, mais la joie que cela m'a déjà donné, que cela me donne en ce moment-ci de vous rencontrer, Michel,
et Michel
également, eh bien, c'est formidable.
Ah oui, c'est
je trouve que c'est formidable. Et je dois dire que, spécialement aujourd'hui, je goûte vraiment ces rencontres.
Ouais. Je vous interroge là-dessus parce que mes livres s'appellent Hermès et Hermès dans la religion grecque, c'est le dieu de la communication. Alors c'est lui qui porte les messages, c'est le dieu des radios amateurs. Vous voyez tout à fait.
Est-ce que c'est le dieu des marins? Non.
C'est le dieu des commerçants seulement. Mmh. Il est au carrefour, il porte les messages, il porte des messages chiffrés généralement. C'est un peu le dieu du secret. C'est un petit peu aussi le dieu des voleurs, parce qu'effectivement celui qui porte les messages peut en profiter. Vous voyez.
Et
c'est pourquoi je suis très intéressé par votre histoire des radios amateurs, parce qu'effectivement il y a là quelque chose comme un réseau de communication qui n'est pas un réseau officiel,
non,
pas du tout, et qui est un réseau simplement privé.
Qui est un réseau privé, qui est un réseau bénévole.
Bénévole, ah oui.
Et encore une fois, où
mais
il
les
y
gens
a une
ont, ont, ont eux-mêmes leur récepteur et leur émetteur.
Oui, oui, c'est ça. C'est...
Et ça demande beaucoup de frais ou de...
Les frais ne sont pas tellement grands. Ce qui rebute beaucoup de personnes, c'est qu'il faut passer un examen et que.
Ah, oui.
Il y a quand même, disons, une certaine technique à connaître et il faut pouvoir lire le Morse. Donc.
Le Morse, ah oui.
Oui.
Mais ce n'est pas très difficile.
Non, non. C'est dérisoire par rapport à ce que ça donnera après. Et je ne verrais pas d'un bon œil, justement, qu'on libère. Parce que là, le fait qu'il faut faire un effort pour devenir radioamateur est une garantie de la qualité des rapports sur les ondes.
Oui,
alors, Michel Serre, Willy de Rose, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête, qu'on conclue. Une toute petite dernière question, Michel Serre, avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez l'impression de naviguer en solitaire?
Oui. Oui, je voudrais le dire aussi à Willy de Rose, que mon métier est un peu proche de ce qu'il fait. C'est effectivement... mon métier est un métier de la solitude aussi, Willy. C'est-à-dire que quand on se met au travail, j'ai été marin moi aussi, et quand je me mets au travail le matin, j'ai toujours l'impression de prendre le car. Je prends le car à la philosophie,
c'est
au
ça.
Lieu de prendre le car au bâtiment. Mais j'ai toujours, en effet, l'impression d'être seul et d'être devant mon bureau, d'être dans le concret réellement, parce qu'effectivement... Les gens croient qu'on est dans l'abstrait, mais pas du tout. Les philosophes sont des gens qui jouissent de la totalité du concret, de la totalité du réel. C'est aussi un travail de solitaire, et s'il n'y avait pas aussi Hermès parfois pour me faire rencontrer des gens comme vous, ça serait un métier très malheureux, et il n'est heureux que par ça.
Alors, je vous remercie beaucoup. J'étais très heureuse de passer cette soirée avec vous.
De passer le Nord-Ouest.
De passer le Nord-Ouest avec vous. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Vive la marine. Vive la philosophie et vive la marine.
Merci beaucoup.
Merci.
trouver deux anges ce soir de l'autre côté de la vitre. Deux anges, puisque Michel Serre, je crois que c'est ainsi qu'on peut appeler les gens qui aident les messages à transiter. Elle s'appelait Danielle Bizien, Josette Collin. Autour de la table, Willy de Rose, Michel Serre, Michel Cohen, Nuit Magnétique. Bonsoir.
Vous venez d'entendre Une nuit magnétique consacrée au passage du Nord-Ouest. Une émission de Michel Cohen, diffusée la première fois le 17 avril 1981 sur France Culture.